A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mise à mal. Célibat. Terre à terre. Ou célibataire à terre. C'est un jeu de mots, mais c'est l'intonation qui fait le...
Toxicité masculine tout de suite. On rentre dans le...
Alors toi...
Oula, oh. Tu vas me prendre. Ah, comment... Attends, ça enregistre pas là.
C'est enregistré, Alba.
Allez.
Bonjour, je suis Flo, bienvenue dans Mise à Mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du célibat et le cliché que j'aimerais qu'on mette à mal. Je fais l'infinitif des verbes, je conjugue plus rien, sitôt. Le cliché D'accord. que j'aimerais qu'on mette à mal, c'est que être célibataire, c'est la loose, ou être célibataire, c'est forcément le paradis. Parce qu'on oscille un peu entre ces deux extrêmes, et je pense que la réalité est plus nuancée que ça. Pour cela, je vais vous présenter mes deux invités, et pour la première fois, je crois que dans le podcast, je suis en infériorité de genre, je suis avec deux femmes. Terre à terre quant à son célibat, ce n'est pourtant pas une célibataire à terre que nous avons là. Je l'ai connue, elle était toute chiotte, pas plus haute que 3000 abonnés sur Insta, et aujourd'hui elle a tué le game parce qu'elle a plus de 16K, donc elle est plus si seule en fait dans son célibat. Mais les chiffres, on s'en tape. Ce que j'aime chez elle, c'est sa sincérité et sa voix. C'est Charlotte, du conte La Célibataire la Vraie.
Hello. Merci. Je me sens comme une star.
Mais c'est tu beau. L'es. Charlotte, est-ce que tu peux dire quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre?
Que j'ai un compte Instagram à 16K.
Tu première le caches
chose,
dans la vie?
Je le cache dans la vie. Personne ne le sait dans mon entourage quasiment. Il y en a qui m'ont découvert, ouais, il y en a qui l'ont découvert par hasard, qui m'ont reconnu. Mais personne ne le sait quasiment dans mon entourage. Je
voulais pas Batman. Trop.
Ouais, c'est ça. J'ai des amis qui me suivent, qui savent pas
ah,
que...
Ça, c'est génial.
Et ça,
contre.
C'est très cool.
Mais
qui
toi, tu
des
sais.
Messages. Et moi, je le sais, moi. Je
connais c'est génial.
Donc, ça, c'est très cool.
Évidemment qu'elle est tranquille dans le célibat. Parce que quand on est génial comme elle, on a besoin de personne d'autre. Je l'ai déjà vue célibe, mais aussi en couple. Je l'ai vue en roue libre et pleine de doutes. La vérité, c'est que si demain elle rencontre quelqu'un, elle devra lui expliquer qu'elle est déjà en trouble avec ses deux amours de toujours, la nourriture et le twerk. C'est Alba.
Hello à tous.
J'adore.
J'applaudis.
Magnifique.
Ah pardon.
Je m'applaudis.
J'étais
aussi.
Tellement... Voilà.
Elle était très belle cette présentation.
Je trouve que c'est plus chaleureux qu'on applaudit, mais c'est très fake.
C'est très
mais au podcast, ça
on
fait toujours de bien.
On assume le côté fake.
Alba, est-ce qu'il y a encore des choses dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre?
Oh, si tu savais.
Il sait justement.
Écoute, après mûre réflexion qui a duré 3 jours, je me suis dit que ce que j'allais raconter, c'est ma collection de tickets de cinéma que j'ai depuis mes 9 ans. Voilà, donc je pense que personne ne s'imagine que je suis une collectionneuse de tickets de cinéma, et ça me semble être une information, mais cruciale, pour mieux me comprendre et me connaître.
Tu vois, moi ça me rassure, parce que j'ai gardé tous mes tickets de cinéma depuis que je vais au cinéma.
Mais c'est fantastique.
Et je me dis, je dois être complètement folle. J'ai une boîte entière de tickets de cinéma que je ne regarde jamais, mais je ne sais pas pourquoi je les garde aussi.
Bah voilà. Donc on va changer de sujet de podcast.
Peut-être qu'il y a plein de gens, peut-être qu'il y a un club à créer, je ne sais pas, peut-être que plein de gens.
Voilà, on va parler du célibat et du cinéma.
C'est ça.
Oh, célibat et cinéma.
Ou des fétichistes de tickets de cinéma.
Ou de la folie.
C'est peut-être pour ça qu'on est célibataire. Voilà.
On comprend mieux.
Voilà, tu vas aller au cinéma avec moi, du coup.
Après les folles achats, les folles à tickets de cinéma.
Improbable.
On va changer le stéréotype.
Voilà.
Et donc, pour lancer ce sujet sur le célibat, je voulais un peu remonter dans vos archives de vie.
Oula.
Voilà. Et savoir, alors, je vais lancer moi l'anecdote, pas parce que j'ai envie de parler de moi, mais ça vous laissera le temps de réfléchir, mais savoir la première fois que vous avez été célibataire et comment vous l'avez vécu. La période moi qui m'a le plus marqué, et je pense qui a vraiment marqué mes relations romantiques après ou mes périodes de célibat, c'est quand j'avais 19 ans. Je me suis retrouvé célibataire après une rupture que j'avais moi-même initiée, mais que j'ai mal vécu au final. Je me suis retrouvé célibataire, je pensais que ça allait durer un mois, parce que voilà, 19 ans, je changeais un peu, enfin j'allais à la fac... Et je pensais, je sais pas pourquoi, quel imaginaire j'avais à l'époque, mais que j'allais pécho à tour de bras, et etc. Et en fait, pas du tout, parce que j'étais pas bien dans ma peau, et donc tu pues, en fait, quand tu, quand t'es dans cette période-là. Et j'ai vraiment vécu, moi, ce que j'appelle encore aujourd'hui, une espèce de traversée du désert depuis un an et demi, à être célibataire non volontaire, quoi. Et à vraiment avoir l'impression que ça s'arrêterait jamais. Donc, ça a été une sale période. Et donc, vous, est-ce que vous avez votre premier souvenir de célibat, c'est lequel, Alba?
Bah, du coup, moi, mon premier souvenir de célibat, c'est après ma première relation amoureuse que j'ai commencé à 16 ans et qui s'est terminée à mes 19 ans. Et un peu comme toi, il s'en est suivi d'une très très longue année, voire plus. Mais pour le coup, moi, c'était pas subi. J'avais aucune envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'avais aucune envie d'hommes, tout simplement. Enfin, en y repensant maintenant, j'avais même l'impression qu'il y avait une forme d'asexualité. C'est-à-dire que je pense que j'avais même seule, j'avais pas de libido. Donc, si on doit rester purement sur le plan sexuel, enfin, il y avait même pas d'envie, on va dire, à combler de cet ordre-là. Et d'un point de vue, on va dire, plus relationnel, non plus, ça m'intéressait pas.
Volontairement, quand la relation s'est terminée, tu t'es dit, j'ai besoin d'un temps toute seule? Ou est-ce que tu l'avais conscientisé à l'époque?
Honnêtement, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas parce que je pense qu'en effet, ça a été évident que j'avais aucune envie de rencontrer de nouvelles personnes. Aussi, si je dois un peu plus creuser dans mes souvenirs, c'est moi qui ai rompu avec mon amoureux de l'époque et j'étais beaucoup dans la culpabilité. Donc j'étais un peu l'impression que je devais vivre une sorte de pénitence pour avoir causé cette douleur à l'autre. Enfin, je me souviens de m'avoir un peu automaudite en me disant, voilà, maintenant il faudra que tu souffres dans toutes tes futures relations pour avoir fait souffrir cet homme. Enfin, bon, qui est un peu un délire. Puis j'étais aussi accessoirement, je viens de m'en rappeler aussi, dépressive en fait à cette période.
Je viens de m'en rappeler, un détail.
Un petit détail.
Mais du coup, forcément, ça influe aussi sur ton envie de relationner avec les autres et clairement, ça par là, j'étais pas du tout intéressée.
Alors, ça influe sur ton envie, mais je pense que c'est plutôt sain que
oui,
de
non,
pas
mais
vouloir.
Clairement, je suis pas allée chercher des personnes.
Oui, mais du coup, tu t'es écoutée.
Ouais, voilà.
Mais il y a ça, parce que tu vois, tu dis pénitence, alors peut-être c'est
mais
pas la peine d'aller.
Oui, non, mais c'était totalement exagéré. Oui, mais oui. Je vais être honnête, je l'ai pensé, tu vois, à ce moment-là.
Mais je pense que t'as ce truc de te punir. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de me dire, je me punis d'avoir fait souffrir quelqu'un. Et je pense qu'à mes 19 ans, il y a eu un peu de ça aussi. Mais quelque part, c'est intéressant de le voir dans l'autre sens, de se dire, bah, oui, c'est peut-être bien d'être prêt à la prochaine relation, prêt ou prête à la prochaine relation que j'ai, et donc de le voir comme une période de construction positive plutôt qu'une période de rédemption un peu négative ou un peu réactive, quoi.
Mmh. Et c'est revenu comment ?
J'ai rencontré un mec, il y a eu un bon feeling, et donc du coup j'ai plus ou moins relationné sur un mois avec lui.
Et tu l'as pas cherché, quoi, c'est un truc
qui
s'est présenté.
Enfin, pour l'anecdote. C'est la première fois dans ma vie où j'ai appris en fait qu'il y avait d'autres formes de relations que le couple.
Ah.
Parce que justement, je ne voulais pas de relation de couple avec ce monsieur qui avait mon âge. Donc 19-20 ans. Et il m'avait mis un peu une pression pour officialiser cette relation qu'on avait, mais qui était très, on va te dire, casual, quoi. Et donc j'avais accepté sous pression, alors qu'en fait...
C'est pas ce que tu voulais.
Oui.
Mais officialiser en tant que couple, est-ce qu'on peut officialiser d'autres formes de relations?
Non, justement, en tant que couple, en mode je suis c'est mon copain et que j'en avais aucune envie, de toute façon, ça n'a pas duré. Vu que dans ma totalité, cette relation a duré un mois, donc c'était totalement absurde.
Parce que forcer à définir le couple alors que t'en as pas envie, c'est chiant, mais je pense que définir ce qu'on est, même si on sait pas ce qu'on est, officialiser qu'on sait pas ce qu'on est, je trouvais déjà rien que ça.
Oui, mais c'est ça, et en fait.
Ça peut soulager des gens.
Voilà, et en fait. C'est une expérience qui là m'a appris en fait que j'avais pas besoin en fait dans une structure nommée avec les hommes dans le futur, et ça m'a appris surtout à ce moment-là en fait d'écouter mon désir et de pas me forcer à accepter la volonté de l'autre et ses arguments voilà en faveur du couple.
Dit-elle en noussant les yeux aussi.
Non mais c'est vrai que enfin pardon je t'ai coupé. On en parle. Moi je sais que ça m'est venu tard aussi de me dire qu'il y a d'autres modèles de relations.
Enfin
parce que on nous a toujours j'ai l'impression appris que c'était le couple ou le célibat et qu'il y avait pas d'entre deux. Et moi ça m'arrivait hyper tardivement de me dire qu'il y avait d'autres alternatives. Et je trouve quand on est jeune, alors je dis pas qu'il faudrait l'apprendre à l'école.
Bah pourquoi pas, hein.
Non, mais en vrai, et en fait, on s'écoute pas parce qu'on se dit, si je veux pas rentrer dans ces cases-là, c'est qu'il y a, moi, je me disais ça, je me disais, c'est qu'il y a un problème, je suis pas normale et tout. Et moi, c'est vraiment hyper récemment que je me rends compte que je rentre pas dans ce modèle en tout cas en ce moment, oui. Et que c'est pas grave et que c'est normal, quoi.
Moi, je me pensais dysfonctionnel aussi, j'étais pas heureux en couple et j'étais pas heureux célibataire et je savais pas où j'allais aller, quoi. Et pendant très longtemps, jusqu'à mes 30 ans, quoi. Mmh. Donc,
moi, c'est pareil, c'est 30 ans.
Mais c'est vrai que toi, par rapport au modèle, moi, j'ai été amenée en fait à créer ma propre... Enfin, pas à créer ma terminologie, mais à trouver la terminologie qui me plaisait pour définir mes relations. Et en fait, j'appelais ces hommes que je voyais sans cadre mes amants. Et en fait, je trouvais que c'était un terme bon, un peu old school,
non,
je
trouve.
Non, mais
moi, je l'utilise encore aujourd'hui. Ah, bah, voilà. Ouais, okay.
Et
souvent,
du coup, en fait, mes amants, j'aime bien cette expression parce que je trouve qu'elle couvre comme une dimension émotionnelle, sexuelle. Et du coup, tu tombes pas en fait dans ces travers d'être forcément soit l'un, soit l'autre, quoi.
Tout à fait d'accord.
Chaque fois que je te regarde et que t'as pas de conclusion, tu paniques. Des fois, je regarde et je suis content.
Ça m'assure trop aussi parce que moi, j'utilise tout le temps l'expression mes amants et j'ai toujours l'impression d'être passée pour la vieille de service, mais j'utilise tout ça.
Ça fait très Marguerite Duras, l'amant de
mais
la
chute nord. Ouais, mais en fait, j'adore. Je trouve que ça résume mieux le... Parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour...
Bah, c'est ça, ouais.
La pression vient souvent des autres, en fait, qui te force, et Alba, t'as vécu la même chose, de définir, en fait, absolument. Alors que des fois, on sait pas vraiment ce qu'on fait, mais on le fait pour de bonnes raisons. C'est juste qu'on n'a pas encore compris rationnellement comment, on n'a pas encore donné des mots et tout. Moi, déjà, me réapproprier mes règles de célibat, ça m'a libéré, mais ça m'a aussi permis de me réapproprier mes règles de couple en filigrane, ce que j'avais pas vraiment vu. Toi, Charlotte, c'est quoi ta première expérience de célibat et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là?
C'est intéressant comme question parce que, en essayant d'y répondre, je me rends compte que je me considérais pas comme célibataire quand j'étais au lycée, par exemple. En fait, vous, j'ai l'impression que vous êtes rendu compte que vous étiez célibataire après une rupture. Et moi, au lycée, parce que c'était à peu près les mêmes périodes dont vous avez parlé, au lycée, j'ai jamais eu, moi, de relation de couple officielle comme on a tous... Et c'est d'ailleurs ce qui a participé, je trouve, à des clichés, parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi, au lycée, les couples, il fallait se tenir la main tout le temps. Enfin, c'était vraiment des stéréotypes. Non, mais tu vois, c'était vraiment...
C'est vrai, putain, faut tout le temps se tenir la main.
Il faut tout le temps se tenir la main. Et j'étais là, mais... Bon, bref. Et donc, moi, j'avais pas de quelqu'un pour me tenir la main, mais j'avais déjà des amants. Non, mais j'avais déjà des relations un peu entre deux, où t'es proche, où il y a des bisous. Alors, à l'époque, c'était des bisous en soirée, tout ça, qui n'étaient pas définis. Et je me considérais pas comme célibataire. Enfin, j'avais pas le mot célibataire sur moi. J'avais pas non plus le mot relation, j'avais clairement pas le mot couple, parce que pour moi, dès le lycée, le couple, c'était il faut se tenir la main, il faut se faire des bisous, il faut s'envoyer des textos payants, il faut rappelez-vous, il fallait que son numéro, vous savez, on avait un numéro illimité. Moi, toutes mes copines en couple, leur premier numéro illimité, c'était leur chérie. Il fallait s'appeler, enfin bref, il y avait plein de codes déjà, je trouve, très établis au lycée. Et bref, donc moi, je rentrais déjà pas dans ces codes, mais maintenant que j'ai la question, je me considérais pas comme célibataire. Je me considérais juste comme... Je suis là.
Je suis là.
Non, c'est vrai que moi, au lycée, avant ma première relation, je me définissais pas comme célibataire. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, où t'as beaucoup de jeunes, des adolescents de nos jours, et tu vois tu vois dans leur bio des fois qu'ils se mettent 14 ans célibataire.
Ouais.
Et en fait, moi, ça me choque quand je lis ça, de se définir déjà par rapport à ton rapport à l'autre. Et déjà, en fait, cette réappropriation en fait, des modèles d'adultes. En fait, je trouve ça un peu terrifiant, honnêtement. Voilà,
je suis d'accord.
En fait, à quel moment on a basculé dans le fait d'accepter un modèle qui nous a... Enfin, une étiquette. Tu vois, dans notre vie d'adulte, aujourd'hui, on pourrait juste dire, en fait, j'ai autre chose à foutre, je suis en train de taffer, je suis en train de faire quelque chose. Tu vois, je suis pas célibataire, c'est pas mon statut, quoi.
Moi, je pense que c'est arrivé, du coup, pour répondre... Si je dois répondre à la question, c'est arrivé vraiment quand j'ai eu beaucoup de couples autour de moi. Mmh. Et qu'en fait, j'ai senti la pression directe ou indirecte sociale... Deux, j'étais la seule qui, dans mon groupe d'amis, était celle qui n'était pas en couple. Et c'est un peu d'ailleurs pour ça que, même aujourd'hui, je dis... Enfin, parce que toute ma vie, en fait, j'ai eu un peu ce rôle de la célibataire de service. Parce que souvent, tu...
Alors, ça se voit pas au micro. Alba vient de checker comme si elle venait de la street.
Il y a eu un regard d'amour de même combat, meuf. Je vous traduis le regard.
Elle s'est tapée sur le torse et on sent qu'elle a des gros pecs.
Et c'est un peu... Et c'est vraiment pour ça. Et sur ça, d'où on me demande souvent pourquoi le nom la célibataire la vraie. Parce que c'est vraiment le... J'ai toujours été un peu la célibataire de service. Et en fait, je me suis sentie célibataire à partir du moment où j'ai senti le côté où on me... considéré comme la célibataire de service.
Ouais, en fait, c'est les autres qui t'ont identifié comme célibataire.
Alors que moi, je faisais ma vie, j'avais mes histoires, mes amants, mes histoires amicales, mes flirts, et plein d'histoires. En vrai, avec le recul maintenant que sur le coup, je vivais pas très bien parce qu'elle rentrait pas dans ce modèle. Mais maintenant, je me dis trop cool. Parce que c'est des histoires fortes, il y a des histoires tellement différentes. J'ai rencontré plein de gens. Mais maintenant que ce recul-là, mais sur le coup, je me souviens de mal le vivre parce que plein de gens me disaient non, mais là, il faudrait quand même que vous essayiez de vous mettre en couple. Et pourquoi là, ça marche pas? Et pourquoi si? Mais je pense que c'est hyper involontaire de la part des gens, hein, mais parce qu'on mais
bien
est
sûr,
quand sont... même dans un schéma très couple. Quoi.
Mais tu vois, justement, sur le fait que ce soit les autres qui te définissent comme célibataire, j'ai toujours cette private joke avec une amie qui, il y a quelques années, avait eu une rupture amoureuse et c'était très douloureux pour elle. Et un jour, elle me sort, voilà, moi j'ai envie d'être comme toi, célibataire et heureuse. Et ça m'a frappée, en fait. Enfin, ça m'a fait beaucoup rire, mais je me suis dit, en fait, comment elle me perçoit, quoi. Et c'est vrai que moi, je me suis jamais définie comme « Hello, Alba, célibataire et heureuse », quoi. C'était pas ma manière à moi de me qualifier. Et du coup, maintenant, j'en joue un peu parce que je suis toujours célibataire et je suis toujours heureuse parce que je suis plus dépressive. Okay. Mais je trouve ça tellement fou, en fait, que ce qualificatif du célibat, en fait, c'est vraiment plus par le regard des autres que par, en fait, ton propre ressenti. Enfin, même aujourd'hui, pareil, je suis un peu dans une phase de vide. Et je me considère pas comme célibataire. En fait, toi, quand je pense à cette période-là de ma vie, je ne me dis pas « Ah oui, je suis célibataire », quoi. C'est pas une façon que j'ai de me percevoir.
Mais c'est marrant parce que quand je préparais la petite bio que j'ai écrite pour toi, évidemment, j'essaie de rattacher au célibat parce que c'est le thème, mais à aucun moment, moi, je me dis « Alba, elle est célibataire ». C'est vraiment, et je crois que t'es peut-être une des rares à qui je me dis pas « Alba est en couple et Alba est célibataire », parce que j'ai l'impression que c'est pas ton référentiel de, tu vois, de présentation ou de relation, et donc du coup... Moi, je me dis, bah, qu'est-ce que fait Alba en ce moment, tu vois? Genre, c'est pas tant est-ce que Alba voit quelqu'un ou est-ce qu'elle se considère en couple et tout. Donc, c'est vraiment vrai. Il y a des gens pour qui je me dis, ah, il est célib, avec un peu de pitié, tu vois. Mais parce que je pense que c'est important pour lui, donc c'est du ça, coup, ouais. Lui-même se qualifie. Enfin, bref.
Bah, oui, mais je pense que j'ai la même chose. J'ai aussi des amis qui, pour qui, justement, ce célibat est assez douloureux parce qu'il y a un désir de couple. Donc, forcément, si t'en parles, voilà, et tu as pensé à eux avec ce petit aspect.
Oui, mais parce que aussi mon référentiel, bien que je l'ai combattu en fait sans faire gaffe, moi j'étais vraiment dans l'archétype du mec en fait. Quand je suis célibataire, je suis libre, donc je suis heureux. Et pendant longtemps, je me disais, quand je suis célibataire, je suis trop content. Ce qui était vrai en fait, les périodes où j'étais apaisé avec moi-même, j'étais très heureux en célibat. Mais en vérité, quand je regarde mon parcours, mon CV,
parcours de vie,
mon CV relationnel,
de chasse.
Exactement. J'adore être en couple, en fait. J'adore nouer des relations. J'adore, tu vois, et donc c'était assez hallucinant d'avoir toujours cet imaginaire du célibataire heureux, mais en fait de réaliser après coup que j'adorais être en couple. Et le jour où j'ai constaté cette dissonance, je me suis dit, mais en fait, ça serait peut-être bien que j'apprenne à être en couple, quoi, parce que fondamentalement, il y a quelque chose que je m'autorise pas.
Oui, parce qu'il y a, enfin, je sais pas si vous avez lu En finir avec le couple de Stéphane Rose. Ben, je pense que vous allez adorer. Et en fait, il démonte en fait par le vocabulaire amoureux des relations amoureuses. Et en fait, il dit, par exemple, quand souvent les gens veulent se mettre en couple, et souvent les hommes, c'est dire « Non, mais là, j'ai fini de m'amuser, il faut que je me pose. » Donc, finir de s'amuser. En fait, lui, il dit « Mais à quel moment se mettre en couple, c'est finir de s'amuser, c'est tellement triste. » Et en fait, il prenait « se maquer »,« la corde au cou », enfin, il prenait tout le vocabulaire, en fait, où on dénigre aussi. Enfin, on associe, en fait, le couple aussi à une prison, à des choses... Bref. Ce livre est fascinant parce qu'en fait, ça te remet en question, toi, ta vision de la société, enfin, la vision de la société, ta propre vision du couple. Ça te fait péter plein de choses. Enfin, moi, ce livre, il m'a scotché, je le recommande fortement.
Mais c'est vrai que pour rebondir sur la terminologie, en fait, je trouve que le problème, par exemple, de dire une relation sérieuse, ça sous-entend que du coup, les autres formes de relations ne sont pas sérieuses et que du coup, en fait, il serait admis d'avoir certains comportements irrespectueux avec ses partenaires avec qui tu n'es pas en relation sérieuse. Et ça, moi, c'est un truc dont j'ai beaucoup souffert, justement, parce que j'ai beaucoup navigué dans des relations... avec mes amants, et j'ai quand même pu constater qu'il y a quand même une attitude totalement différente de la part des hommes à partir du moment où je ne suis pas considérée comme la petite amie.
Officielle.
Voilà. Et en fait, je me dis, mais en fait, au bout d'un moment, on est deux adultes consentants, le respect doit être à la base, en fait, de notre rapport. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas ta meuf officielle qu'il y a des comportements qui sont tout d'un coup acceptables. En fait, non, tu manques de respect... Adios amigos.
Une vraie hiérarchie, je suis d'accord, il y a une vraie hiérarchie encore des relations. Et il y a le graal absolu pour beaucoup de gens, c'est la relation de couple officielle. Ouais. Nous, on a même nous-mêmes intégré que quand on est en couple, on n'est plus censé être... Bah, le fameux « quand t'es en couple, tu te poses et t'es plus fini de s'amuser », je pense qu'on l'a tous intégré au final.
Tu vois, je poussais peut-être le bouchon un peu loin en parlant d'une forme de sexisme, mais moi, je trouve qu'on tombe un peu, tu vois, genre dans les fameux clichés de la madone et de la putain. Dans le sens où, en fait, du coup, t'es en couple sérieux qu'avec une femme que tu vas considérer comme une forme de madone, donc qui ne pêche pas, qui est bien sous tout rapport. Et donc, du coup, pareil, tu vois, tu retombes un peu dans des cases. Et du coup, bah, la putain, donc du coup, tu parce que c'est une femme, on va dire, qui a une sexualité libérée, tout d'un coup, bah, tu faut que tu lui manques de respect, quoi.
Ouais, puis ce qui est ouf, c'est qu'en tant qu'homme, tu veux, quand t'es célibataire, du coup, il y a cette dichotomie, tu veux tomber sur des cochonnes, hein, on va le dire. Et quand tu te mets en couple, tu veux tomber sur la mère de tes enfants.
Exactement.
Et tu te dis, mais c'est quoi ce bordel, quoi, genre. Enfin, moi, ça m'allait pas. Après, je dis ça, en vrai, je pense qu'il y a certaines périodes de ma vie où j'ai dû attendre ces clichés-là. C'est juste que je suis pas dedans aujourd'hui, donc peut-être je me rappelle plus, quoi.
Ouais, mais parce que je pense que t'as déconstruit aussi pas mal de choses.
Oui,
enfin...
C'est ça. Enfin, je dis ça, pas ça pour te dédouaner, mais je pense qu'on a tous grandi avec des grosses normes sociales et qu'il faut un certain temps pour en sortir. Et enfin, déjà, en avoir conscience, enfin, c'est tellement compliqué.
Ça m'a fait penser, Charlotte, tu parlais de tes amis qui étaient en couple et toi, tu l'étais pas. Et il y a quand même ce rôle de là où le célibataire qui va un peu être la caution fofolle de ses potes, tu
complètement.
Vois.
Complètement.
Ouais,
c'est pour ça que j'en ai
ça.
Fait, moi j'en ai fait un compte Instagram tellement, moi j'ai vraiment des amis qui sont en couple depuis 15 ans ou 20 ans, peut-être pas 20 ans, j'ai quel âge? Oui.
depuis leurs 5 ans et demi.
Non mais j'ai vraiment une amie qui est en couple depuis ses 15 ans, donc je fais le calcul dans ma tête.
Ouais.
Donc on est plus proche des 20 ans que des 15 ans, bref, je suis vieille.
Ouais.
Et en fait, à chaque fois qu'on discute ensemble, la première chose qu'elle me dit c'est « alors tes histoires ». En fait, il y a un peu la caution, j'en ai fait un même qui avait cartonné, parce qu'il y a vraiment cette caution de la célibataire qui a toujours des histoires à raconter. Et je me souviens, il y a des moments où j'avais pas d'histoire. Enfin, on a des périodes de célibat aussi où c'est calme, on n'a pas d'histoire à raconter. Je me sentais coupable de pas avoir d'histoire à raconter.
Mais c'est ce qui est drôle, c'est que t'as commencé en disant « je me suis pas considéré célibataire, ça a été une construction ». Mais aujourd'hui, en te réappropriant l'archétype que c'est, tu t'en libères. Donc
c'est exactement ça. Très bonne analyse,
cool. Bah
docteur...
écoute, c'est mon métier. pas du tout mon métier. Et sur le côté pas d'histoire à raconter, c'est vrai que là en parlant je me dis mais en fait tu m'étonnes qu'on s'épuise à être célibataire, s'il faut tout le temps être gueudin, c'est épuisant quoi. Et c'est vrai que moi je l'ai vécu aussi en tant que mec, quand t'es célib et que t'as pas d'histoire à raconter, tu fais pitié quoi. T'as
alors
vraiment
que,
ce truc
ouais.
de... Alors que non en fait t'as le droit d'être calme, t'as le droit de te reconstruire, t'as le droit aussi d'être un peu introspectif, c'est pas obligé d'aller conquérir, enfin chez un mec t'as ce truc là tu vois d'aller collectionner et tout. Et moi j'en ai beaucoup souffert dans les périodes de célibat. Des fois même mytho, tu vas te dire ouais j'ai fait ça en fait pas du tout.
Tu m'as
fait...
déjà menti ou pas?
Non parce que j'étais grand, j'étais
d'accord.
Très adulte quand je t'ai rencontré à Alba. Non mais j'ai plus jeune vers la vingtaine, tu vois quand vraiment j'étais pas confiant et tout. Quand des potes savaient, parce que tu vends vachement la peau de l'ours avant de l'avoir tué quand t'es plus jeune, et donc tu dis ouais demain je vois cette meuf parce qu'en fait t'as envie déjà qu'on te félicite d'avoir un rendez-vous, tu vois. Et du coup, tes potes, le lendemain, t'écrivent un texto et tout, et ben, je faisais exprès de pas répondre. Alors clairement, je rentrais chez moi la queue entre les jambes parce qu'elle m'avait vesqui pour le bisou de bonne soirée et que j'allais me coucher tout seul. Et je faisais semblant de pas répondre et le lendemain, on va dire « Attends, elle vient de partir ». Ça m'est déjà arrivé, pas beaucoup, parce que je me trouvais que je faisais encore plus pitié à mentir parce que je le savais. Mais il y avait vraiment ce truc de toujours avoir l'impression d'être trépidant et la réalité a l'air encore plus triste quand tu te retrouves seul, quoi. Donc,
Bah, c'est vrai que moi, de mon côté, c'est pas tant donner l'impression que t'es misérable ou triste, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être moins intéressante auprès de mes proches. Donc, du coup, je rebondis avec ce que tu dis autour des petites histoires que tu racontes. Et c'est vrai que toi, moi, ça fait des mois là qu'il se passe pas grand chose d'un point de vue sentimental et sexuel dans ma vie. Et j'ai peur d'être ennuyeuse, en fait, parce que je pense que pendant des années, j'étais tellement active. Puis moi aussi, en fait, je considérais que ces histoires-là, c'était ce qui donnait un peu de piment dans ma vie de tous les jours. Alors que maintenant, je n'ai plus ça. Bon, j'aime bien ma vie, mais du coup, j'ai l'impression que pour les autres, je n'ai plus d'intérêt, quoi. Je ne réponds plus à ce rôle social potentiel que j'avais dans mon groupe d'amis.
Ouais, c'est un peu le
alors que je me
le roi,
suis,
quoi.
Ouais, mais sauf que je me le suis inventé, tu vois, parce que personne m'a dit ah, t'es chiant, t'as l'air maintenant.
Après, je pense que, enfin, moi, je suis pas sociologue et tout, mais en fait, maintenant que donc j'ai ce compte et que je m'y intéresse et que je me renseigne, enfin, j'ai l'impression quand je l'analyse un peu le truc, c'est qu'en fait, dans la société, on nous a toujours un peu dit que la relation amoureuse, c'est un peu le truc ultime. C'est le truc qui va vous faire vibrer. C'est, donc, c'est le truc au-dessus de tout, de la passion, au-dessus des relations amicales, au-dessus des relations familiales. Et en fait, on nous a toujours un peu appris... Enfin, je trouve, quand tu prends le recul, moi, tous les films Disney que j'ai regardés, toutes les séries que je regardais quand j'étais jeune qui parlaient d'adolescents, en fait, ils parlaient beaucoup de relations amoureuses, en fait. Et donc, je pense que, pareil, inconsciemment... Enfin, encore une fois, je suis pas experte, mais j'ai l'impression qu'inconsciemment, on se dit aussi que... si on n'a pas de relation sentimentale au sens amoureux dans nos vies, ben pour les autres, c'est pas intéressant. Et du coup, même pour nous, on se dit... moi, longtemps, je sais que je me disais... J'ai longtemps, vraiment jusqu'à quasiment un an, très mal vécu mon célibat. Moi, je vivais très mal mes périodes de célibat parce que j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Parce que j'avais, je pense, intégré que tant que j'avais pas cette personne qui allait combler plein de choses, qui allait me rendre... Il y avait vraiment le côté... je serais heureuse, vraiment... le jour où je rencontrerai le The One, quoi. J'avais aussi ce cliché de l'âme sœur, etc. Enfin, qui est peut-être pas un cliché d'ailleurs, qui, je pense, existe pour certaines personnes, mais voilà. Et du coup, je pense que tu l'as intégré, et qu'effectivement, quand t'as une... alors que ta vie peut être hyper remplie par plein de choses, mais aux yeux des autres, tu te dis que c'est pas... qu'on n'est pas intéressant, quoi.
C'est enfin... ça.
Je pense que c'est ça, et le truc qui est clé, c'est qu'on a tellement appris que la relation romantique était le bout du chemin,
ouais,
tu vois,
ça.
Et qu'en plus, d'ailleurs, on a toujours une ellipse éternelle sur ça, parce que tous les contes se terminent sur « ils se sont mis ensemble et ils ont beaucoup d'enfants », donc du coup, c'est terminé pour toujours, ouais. Et donc on se dit « c'est le bout du chemin ».
C'est le bout du chemin.
Que j'ai l'impression que quand on est célibataire, on doit compenser le pseudo-vide qu'on pense avoir avec plein d'anecdotes ou de folies ou de machin, comme si vraiment il fallait justifier que le célibat pouvait se remplir, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Alors qu'en fait, c'est OK d'être calme. Et d'ailleurs, même, je pense, ça devrait être un devoir,
ouais,
de connaître des valeurs de célibat introspectif. Tu vois, tu peux être célibataire et complètement paumé pendant très longtemps. Mais être célibataire et faire vraiment le point de quitter ce que tu veux et tout, je pense que, enfin, moi, c'est ce qui m'a sauvé aujourd'hui. Je considère avoir une relation épanouie, c'est parce que je me suis posé, mais je l'ai fait volontairement parce que j'ai tellement fui pendant longtemps dans mes périodes de couple et mes périodes de célibat, j'avais jamais pris ce temps seul, quoi.
Le célibat, en fait, c'est parfois subi, moi je dis toujours c'est parfois chiant, il y a des hauts et des bas comme n'importe quel truc, mais c'est aussi ces moments-là pour explorer, enfin vous avez plus de temps aussi parce que être en couple ça prend aussi du temps, profitez de ce temps-là, profitez du temps pour vous reconnecter, enfin profitez du temps pour pas avoir de relation, profitez du temps si vous avez envie de vous amuser pour vous amuser, mais c'est juste écouter, enfin profitez-en pour vous écouter et tout. Enfin je dis ça parce que moi c'est très récent que je vois le célibat comme ça, et c'est toutes ces œuvres-là qui m'ont fait me dire mais en fait... tellement. Et pourquoi j'aurais tellement aimé avoir cette réflexion-là et ces automatismes-là plus jeune, parce que moi, de mes vraiment 18 ans à mes 30 ans, même plus, 30 et quelques, je subissais mon célibat. Je subissais et ça, c'est beaucoup moins le cas. Alors, je dis pas que c'est tout beau, tout rose tout le temps, mais je subis beaucoup moins qu'avant.
Mais justement, la question que je voulais vous poser, c'est... comment vous voyez le célibat avant? Qu'est-ce qui a fait peut-être un changement dans votre vie ou pas? Et comment vous le voyez aujourd'hui? Une question en fait très large. Prenez l'entrée que vous voulez.
Et du coup, moi, je vais faire une réponse pas très développée parce que honnêtement, sur ces 10 dernières années où j'ai eu des grandes périodes de célibat, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu beaucoup de révélations sur le célibat. Autant j'ai beaucoup appris de mes différentes relations, mais autant le célibat en tant que tel, comme j'en ai jamais eu une vision négative à la base, bah en fait j'en suis restée à la même interprétation qu'à mes 20 ans.
Ouais, mais parce que je pense que t'as eu cette révélation en vrai tôt. Enfin, tu vois, oui, j'ai l'impression de ce que tu racontais, que dès 20 ans, tu t'es dit, il y a deux types de relations qui me vont et...
Après, tu vois, je vais faire quand même une précision, c'est que j'ai aussi des modèles dans ma famille qui sortent des carcans classiques. Et je pense que du coup, c'était aussi ma chance. Hello, maman. mais du coup, j'ai une mère célibataire depuis des années qui assumait devant moi qu'elle voyait des hommes avec qui elle n'était pas en couple. Et donc, du coup, très jeune, j'avais déjà cette vision d'autres modèles. Et je pense que c'était peut-être ma chance quand j'étais assez jeune. Et c'est vrai qu'aussi, dans ton entourage, t'as que soit des couples ou des divorcés. Bon, c'est pas très inspirant.
Mais en fait, l'importance du modèle est forte. Et moi, j'ai l'impression que... Moi, par exemple, j'étais dans un modèle familial très traditionnel. Et j'ai l'impression que dans toutes les œuvres, encore une fois, que tous les films que je regardais, c'était aussi des modèles traditionnels. Donc moi, jusqu'à encore une fois, récemment, je me disais, c'est le modèle. C'est le couple ou rien, quoi. Enfin...
Alors que j'avais d'autres modèles, moi, de relations, mais je me disais, c'est pas les bonnes relations. Il y
avait ouais, vraiment c'est ce anormal, côté. T'as ouais. un truc. C'est. Y a un truc que j'ai pas compris ouais. ou que je fais pas bien.
Exactement.
Et du coup, toi, comment ça s'est passé? Donc, jusqu'à récemment, tu voyais comment tes périodes de célibat?
Alors, moi, mes périodes de célibat, je les vivais. En fait, j'étais toujours en recherche de quelqu'un. C'est-à-dire que je me disais toujours. J'avais envie d'être en couple. J'avais vraiment. Et ce qui est, encore une fois, très bien aussi d'avoir envie d'être en couple. Mais moi, je pense que je l'avais pour les mauvaises raisons. J'avais envie d'être avec quelqu'un parce que je voyais ça comme un accomplissement ultime de vie. C'était une fois que j'aurais rencontré cette personne, en gros, tous mes problèmes seront. Je caricature un peu, mais vraiment, je pense que c'était ça au fond. Tous mes problèmes seront de côté. Et à deux, voilà, j'aurais rencontré mon âme sœur, je serais enfin une personne entière. Il y a vraiment le côté âme sœur, donc.
La complétude. Voilà,
ouais. J'aurais ma personne qui me complète. Et je pourrais envisager, enfin moi je sais que longtemps je me disais, voilà je pouvais pas acheter toute seule, j'avais pas envie d'acheter un appartement toute seule, parce que l'achat pour moi je le voyais à deux, la parentalité je la voyais à deux, et donc tous ces projets de vie que j'avais, je me disais il faut à tout prix que ça soit du coup lié à une personne que j'ai même pas encore dans ma vie, enfin... et aussi parce que, et du coup il y avait la pression, enfin du coup c'est horrible parce que je pense que ça a aussi biaisé des relations que j'ai eues, parce qu'en fait, il y a une pression indirecte que tu mets sur la personne que tu rencontres, quoi. Mais bon, ça, c'est encore... J'en parlerai à ma psy. On va pas faire un podcast à 6 heures. Mais bref, tout ça pour dire que, pour répondre à la question, je vivais assez mal mon célibat et je voyais... En plus, plus tu vieillis et plus ben, les gens se... Enfin, voilà, tu vois les gens autour de toi. Moi, je les enviais. Enfin, du coup, vraiment, le célibat, je le vivais très mal. Alors que, maintenant, avec le recul, je me dis, mais j'ai tellement vécu des trucs trop cool pendant que j'étais célibataire que j'aurais jamais vécu si j'avais été un temps en couple, je pense.
Et c'est quoi qui t'a fait le déclic du coup de me dire ça peut être cool? Et des fois c'est chiant et c'est la description de ton compte que j'adore.
C'est, tu vois, d'ailleurs mon compte est lié à ce qui s'est passé, ça a été la rupture un peu de trop.
Ouais.
Je fais cette rencontre un peu coup de foudre vraiment, j'étais un peu là justement dans le cliché du film américain. Et une relation qui se passe trop trop bien, donc 6 mois ou 7 mois. Et elle s'arrête donc le 3 janvier du jour au lendemain. Donc vraiment lui part... sans trop de justification d'ailleurs. Et là, en fait, je me souviens avoir dit à des amis, quand je parlais de cette relation, si celle-là, elle fonctionne pas, en gros, je lâche l'affaire.
Ah ouais.
En fait, vraiment, là, j'abandonne. Et en fait, c'est pas plus mal, parce que c'est ce qui s'est passé quand, en fait, on s'est séparés, enfin, quand il m'a quittée. Là, je me suis dit, enfin, c'est bon, en fait, clairement, c'est pas fait pour moi, j'abandonne. Enfin, là, j'ai plus de... Je rencontre quelqu'un qui ça se passe trop bien pendant des mois. Enfin, voilà, on était rentré dans le cliché. Enfin, pas dans le cliché, d'ailleurs, c'est pas un cliché, mais on était rentré dans le schéma parfait de... On a présenté nos amis, ça se passait trop bien. On a présenté notre famille, ça se passait trop bien. On parlait d'appartement, on parlait d'enfants, on parlait de mariage, bref. On rentrait dans tous les... On avait coché toutes les bonnes cases. Et là non plus, ça a pas marché. Donc là, je me suis dit, Bah, tant pis, quoi. Franchement, tant pis, j'enlève ce pan de ma vie. Et à partir de là, ça a fait un énorme déclic. Là, je pense que c'est vraiment le déclic ultime. Là, j'ai totalement... en fait, en me disant moi-même, je lâche l'affaire, ben, j'ai totalement plus vécu mon célibat de la même façon. Alors, je vous passe quand même la phase où j'ai fait que pleurer, où j'ai tout remis en question, où voilà, ça c'est... Il y a eu toute une phase quand même de battre de la relation. Et en fait, il y a eu... Je me suis reposée sur... J'ai écouté plein de choses sur les ruptures, des podcasts comme Des Amours, Le Cœur sur la Table, qui m'ont vraiment fait voir les relations autrement. Et j'ai créé mon compte. En fait, j'avais ce côté... Ma sœur m'a dit, t'as plein d'histoires de toute ta vie de célibataire, même de vie sentimentale. T'as des carnets entiers remplis. Franchement, parle-en, quoi. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens que ça peut intéresser. Et en créant ce compte... Je pense que ça m'a fait une thérapie accélérée de ouf, parce que ça m'a aussi obligée à moi-même analyser ma vie ouais. sentimentale, à analyser un peu celle des autres indirectement, à en plus me renseigner, parce que aussi ben, j'avais un discours à tenir, j'avais plein de gens qui me posaient des questions, donc j'avais aussi un besoin de... Et en fait, ça m'a fait là totalement déconstruire plein de choses. Et je dis pas, hein, j'ai aussi des périodes, enfin, faut pas non plus idéaliser, j'ai des périodes où clairement j'ai envie de Ken, j'ai des périodes où j'ai envie d'un câlin, j'ai des périodes, enfin voilà, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de partager quelque chose, j'ai des périodes où j'ai envie de construire quelque chose, où je remets aussi en question moi-même le modèle que j'ai déconstruit. Enfin bref, je me pose beaucoup de questions. mais ça a été vraiment, ouais, je pense, cette rupture de trop et cette analyse indirecte que j'ai un peu subie, mais qui, avec le recul, me fait me dire, mais franchement, tant mieux, parce que là, toutes les relations que j'ai aujourd'hui, elles sont beaucoup plus, je pense, saines, parce qu'il n'y a plus du tout cette pression-là indirecte que je mettais, je pense, à l'autre sans faire exprès, quoi.
Mais c'est ça qui m'a marqué quand t'as dit, même si c'est terrible à vivre, quand tu te fais larguer, tu comprends pas pourquoi et tout ça, que tu dises là j'abandonne, on pourrait croire sur le moment, et je pense que tu l'as sûrement vécu comme ça, c'est tragique, genre j'abandonne tout espoir de l'amour, j'abandonne le fait d'être aimé, tout ça, le truc qu'on peut se dire quand c'est vraiment dur, et moi je l'ai vécu aussi, de me sentir pas aimable. Mais je pense qu'avec le recul, ton « là, j'abandonne », si tu complètes la phrase, il dit « j'abandonne ce qui marche plus », c'est-à-dire les préconceptions, les injonctions, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es réapproprié tes relations qui marchent selon tes critères.
Je voudrais rebondir sur quelque chose qui est toujours très au couple, on ne dirait pas. Voilà, je dois faire une soirée d'anniversaire bientôt.
Vous êtes tous invités, les appels du cœur. 15 000 personnes chez Alba.
Yes. Et en fait, du coup, si tu veux, c'était pas tant pour célébrer mon anniversaire, mais en fait, l'envie de créer un événement où des gens peuvent se rencontrer, parce que là, actuellement, je pense aussi que c'est exacerbé par le Covid, mais en fait, les gens font très peu de soirées, et surtout pour rencontrer des nouvelles personnes, c'est un peu mission impossible. Donc je me suis dit, tiens, voilà, je vais cueillir cette occasion de l'anniversaire pour créer un événement. Et donc, du coup, tous mes amis, je les ai incités à inviter une personne en plus. Et en fait, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que tout le monde a invité son partenaire.
Ah ouais ?
Et en fait, du coup, j'ai eu deux réalisations. La première, c'était que la majorité de mes amis étaient en couple. Et en vrai, genre, ça m'angoisse comme idée, pour différentes raisons que je pourrais développer ensuite. Et la deuxième réalisation, c'est de me rendre compte, en fait, que tous ces amis qui sont en couple, quand je leur ai proposé d'inviter une personne, en fait, il n'y en a aucun qui s'est dit « je vais inviter un ami ». Tu vois, genre ceux à qui j'ai juste dit un plus un, tout le monde était là, genre « du coup, je viens... »
C'est forcément le couple.
Ouais, ça. Du coup, je me dis « je vais faire plus d'eux maintenant. » Peut-être que du coup, des gens amèneront
leur trouble.
Ça, voilà.
Ça me fait. Je me souviens d'une amie quand je me suis m'étais mise en couple, parce que ça m'arrive aussi d'être en couple. Elle m'avait dit trop bien, maintenant que t'es en couple, on pourra se faire des dîners avec mon mec, que je n'avais jamais vu. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je peux le rencontrer. On peut faire des dîners à trois. Je suis intéressante solo aussi. Mais elle avait tellement. En fait, elle venait d'une famille assez tradie et tout. Et à partir du moment où je me suis mise en couple, et effectivement, elle a organisé plein de dîners. Donc j'ai rencontré son mec enfin. Alors ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, parce qu'elle ne me Je pense qu'encore une fois, c'était pas du tout conscient de sa part, mais pour elle, il fallait se rencontrer en couple. Enfin, je sais pas, elle avait ce truc de dîner de couple, et en fait, elle n'envisageait pas d'avoir un couple et une nana célibataire en face, ou c'est un ça. Homme célibataire.
Mais du coup, je vais rebondir sur quand je disais, tu vois, que je trouvais ça angoissant, en fait, que tous les gens aient décidé de venir à cette soirée avec leur partenaire, parce que, en fait, là, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi, là, mon futur ? Ouais, j'avais prévu que ça allait peut-être un peu trop dans la psychanalyse, je suis désolée. Non, mais en fait, ça semble très dramatique, oui, j'en ai bien conscience. Mais en fait, je me suis dit, en fait, c'est quoi là ? J'approche de la trentaine, donc je sais que vous êtes plus âgé que moi, donc ça se trouve, vous êtes.
Oh god, ok, merci de le préciser.
Vous avez 14 ans, Alba, en fait. Hein.
J'ai 14 ans et demi.
Vous approchez plus de la quarantaine.
Mais en fait, je me dis, qu'est-ce que m'offre le futur auprès de mes amis, en fait ? Est-ce que je vais être condamnée ?
Non, t'inquiète, il y a divorce. Moi, je suis dans la phase divorce.
Ah, t'inquiète. En fait, je trouve forcément quand une grande partie de tes amis se mettent en couple, ça a un impact en fait sur le type d'activité que tu vas faire avec les personnes. Et donc tu vois, on parlait tout à l'heure d'être posé, sérieux, et c'est vrai que je commence un peu à l'observer où clairement il y a une autre façon de sortir sur son temps libre, qui est des gens en couple très posés, on va rentrer pas trop tardivement à la maison, Et si tu veux, genre, c'est un peu un sujet de conversation que j'ai des fois avec un de mes rares amis célibataires, avec qui on a pas mal d'amis en commun du lycée, et la plupart de ses amis sont tous en couple maintenant. Et c'est vrai que nous, on se retrouve et ça nous angoisse un peu, parce qu'on se dit, mais du coup, on va être quoi, les potos célibataires
Est-ce qu'on va être exclu même enfin,
ouais, c'est ça. En fait, j'utilisais le mot angoisse parce que j'ai même moi-même du mal à mettre des mots clairs sur qu'est-ce qui me fait peur, mais j'ai l'impression que tout d'un coup, je vais être un peu limitée dans mes interactions avec mes amis dans le futur, du fait qu'ils sont en couple. Après, tu vois, encore une fois, comme toi, ça me dérange pas d'être la fille solo avec un ami et son partenaire. À partir du moment où j'aime bien le partenaire, on passe de très bonnes soirées. Et puis, ça m'est déjà arrivé de partir en week-end, en vacances, avec un couple d'amis.
Oui, mais on pouvait très bien sûr.
Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Donc, je sais très bien que c'est possible d'avoir des relations amicales dans cette dynamique. Mais c'est vrai que quand tout d'un coup, tu deviens une sorte de minorité, ça te questionne beaucoup en fait sur ton rapport aux autres et je ne te cache pas que jusqu'à maintenant j'avais jamais senti de pression à me mettre en couple et c'est les premières fois où là tout d'un coup je me questionne où je me dis en fait il y a vraiment ce besoin arrivé à la trentaine de rentrer encore dans des cases.
Non mais vraiment la norme du couple c'est un vrai sujet et moi c'est pour ça que encore une fois j'ai créé ce compte pour déconstruire ça et c'est juste dire en fait une personne célibataire vaut autant qu'un couple et une personne qu'il y a des amants ou des maîtresses vaut autant qu'une personne en couple. Et en fait, il n'y a pas d'hierarchie des gens parce qu'il y a le couple traditionnel tout en haut et le célibat tout en bas. Et entre-temps, bah, y a plein de trucs qui sont plus ou moins tolérés. Et encore, par contre, aujourd'hui, encore une fois, être en couple, c'est très cool. Être célibataire, enfin, toutes les formes de relations peuvent être très cool quand elles sont bien vécues ou mal vécues. D'ailleurs, c'est pas grave parce que elles sont juste vécues, quoi.
Et juste, je voulais rebondir, Alba, tu disais, j'ai des angoisses et je crois que c'est légitime
ah
que t'aies des angoisses ouais. Parce que c'est des questions de problèmes de modèle, en fait. Et en t'écoutant, je me suis dit, alors je fais une métaphore, je l'attends. Bah, récemment, j'ai joué à un jeu de mini-golf, donc du coup...
C'est pas la métaphore que j'attendais.
Non, je
sais, parce que j'ai passé une drôle de soirée, voilà. C'était très bizarre, on vivait du rhum et on jouait au mini-golf sur la Wii.
Mais qui es-tu? Ah, sur la Wii.
Ah oui, sur la Wii, parce que j'allais dire
c'est
qui, pire, déjà, pire. Où on joue au mini. Moi, je sais pas si c'est moi
est-ce
qui.
Est-ce que ça atténue je sais pas.
Écoutez, je laisse chacun.
On te juge, on te juge.
On continue de te juger silencieusement.
non, ouvertement, même. Bah,
non, j'essaie d'être bienveillant. En gros, c'était marrant, on était quatre à jouer et chacun avait sa technique. Donc, tant que t'es sur le green, oui, ça va.
Pardon, mais je sais pas où il va. J'ai hâte de voir la conclusion.
Ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas où je vais non plus. Donc, tant que t'es sur le green, en gros, t'es sur le parcours, bah, tu fais tes coups. Il y a plusieurs moyens d'arriver donc, c'est cette période que je vais comparer au célibat, où tu fais ce que tu veux, dans le sens que tu veux, okay. À la puissance que tu veux, l'intensité et tout. Mais le end goal, c'est de finir dans le trou qui est le même pour tout le monde.
Il y a plein d'interprétations à cette métaphore.
C'est la plus
laquelle
sale
tu choisis.
Que
voudrais, alors on va la prendre de manière
sale.
Voilà.
Donc le truc c'est que ce que tu disais Alba, c'est de dire que les couples qui en plus font les, t'as parlé en fait ces couples qui font des trucs calmes, de gens calmes. Tu vois. Pourquoi on va switcher dans un mode on est chiant et on joue au bridge parce qu'on est en couple quoi. Je ferai un épisode sur le couple donc du coup je voudrais pas trop spoiler sur ça et revenir sur le célibat. Le truc que tu dis dans lequel je me reconnais, c'est que moi j'ai eu l'impression d'être coincé, d'être condamné dans les limbes, dans le sens où parce que j'avais pas déconstruit ma vision du couple, déconstruit je déteste ce mot en fait, parce que j'avais pas apaisé.
C'est comme relation toxique. Hein,
oui, c'est un peu devenu.
Ouais, mais déconstruit, moi ce que j'ai détesté, c'est qu'il m'a fait du mal moi. Enfin, je veux pas aller là-dedans, mais en fait à tout déconstruire, on démolit en fait à force. Et je pense qu'il faut aussi se garder un petit temps pour reconstruire. Et je pense que ce temps-là manque beaucoup personnellement. Mmh. Voilà, c'est bien de déconstruire, mais c'est après de voir qu'est-ce qu'on fait avec les briques qu'on a démontées et refaire quelque chose qui nous convient. Donc, en tout cas, moi, parce que je m'étais pas posé la question de ce que ça voulait dire le couple et ce que je voulais en faire positivement, j'allais que vers des relations dysfonctionnelles, parce que de fait, je faisais n'importe quoi. Et mes périodes de célibat, je les vivais bien, mais c'était pas ce que je voulais fondamentalement, parce que j'aimais être en couple. Et donc, c'était toujours un espèce de, je suis dans les limbes, je m'amuse bien, mais c'est pas l'accomplissement. Puis quand je suis en couple, je suis condamné. Et donc, du coup, voilà. Et j'avais vraiment ce truc de, quand j'arrivais en couple, je me sentais à la fois soulagé et à la fois, je sais pas pourquoi, mais stoppé dans l'apogée de ma gloire, tu vois. J'avais vraiment cette impression en tant que mec de dire, ouais, en fait, je me suis posé parce que elle l'a un peu demandé, la petite, mais j'étais pas à ce point, mais je pense vraiment qu'il y avait une petite part de moi qui était machiste comme ça. Parce qu'elle le voulait, parce qu'elle a voulu me calmer ma fougue. Mais en fait, moi, j'étais au top de ma gloire, je faisais ce que je veux et tout. Et après, quand je me retrouvais tout seul à nouveau, j'étais une grosse merde, quoi. Donc, de dossier entre ces deux élans enfin qui sont en fait faux et l'un et l'autre quoi.
Ouais.
Et en gros juste pour un peu aller vers la conclusion mais ce que j'entends depuis tout à l'heure c'est que être célibataire ou être en couple c'est des vues de l'esprit et c'est vrai le taf qu'on a à faire c'est d'être bien vraiment avec soi et de choisir de le partager ou pas avec des gens à certains moments ou non. Et donc, ce mec-là, il n'était pas prêt à ce moment-là, et c'est dommage qu'il ne l'ait pas verbalisé, parce que vous auriez pu vivre une période de secousse, tu vois, de se dire, bon, bah, là, je suis peut-être un peu en chantier, c'est un peu le bordel et tout, mais j'ai envie que tu restes dans les parages quand même, et plutôt que de faire des trucs vraiment binaires, parce que le problème, encore une fois, on revient sur ce qu'on disait en début, c'est que être en couple s'oppose à célibat et inversement, et donc, du coup, on est condamné à être binaire, et donc, du coup, à se couper de toute une
Exactement.
Partie de ce que c'est que d'être soi et d'être soi en relation, quoi. Avant de se séparer, est-ce que vous auriez un mot pour ce que vous évoquez le célibat? Je confonds les voyelles, c'est quand même vraiment grave là.
C'est quoi le vin que t'as acheté? La normalité.
J'adore ce mot, j'aime beaucoup.
Genre la norme, c'est être célibataire.
Non, mais je dirais pas la normalité dans le sens norme sociale, mais en fait, j'ai l'impression que du coup, j'ai recommencé un deuxième épisode sur le célibat.
Vas-y.
Mais c'est-à-dire que je ne vis pas ma vie en me pensant comme célibataire, quoi.
Ouais.
Donc en fait, c'est...
Mais ça devrait être normal, quoi.
C'est enfin, ma normalité, devrait... quoi. Ouais. C'est ma vie de tous les jours et que j'ai l'impression que je suis célibataire aux yeux des autres.
Et j'espère que je ne sais pas les messages que je fais passer sur mon compte. Je ne milite pas pour dire que la nouvelle norme... Et je pense que ce n'est pas ce que tu veux justement
non,
que
non,
dire.
Pas la
nouvelle norme,
ce n'est
pas le célibat. Mais franchement, arrêtons juste de dire aux gens, enfin à tout le monde, qui sont définis par leur statut sentimental. Fin...
Et du coup, toi, Charlotte, quel serait le mot que tu utiliserais pour définir célibat ou le fait d'être ou célibataire?
Et moi, c'est surtout le mot que je ne veux plus entendre. Célibataire, le mot, c'est pas un gros mot, en fait. C'est pas... Moi, j'ai beaucoup encore de gens dans mon entourage, et c'est beaucoup de femmes. J'ai des amis... j'ai des amis hommes. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas plus d'amis femmes. Enfin, je veux dire...
Je déteste pas les hommes, j'ai des amis hommes.
C'est fameux. Non, mais j'ai quasiment autant d'amis deux
plus
côtés.
Plus on essaye, plus c'est difficile. Ouais.
Et j'ai beaucoup, beaucoup de femmes autour de moi qui vivent mal. J'ai aussi des hommes qui vivent mal leur célibat, mais j'ai beaucoup, beaucoup de femmes autour de moi qui vivent mal leur célibat. Parce que, et en fait, qui n'assument pas ce mot célibataire, parce que dans leur perception à elles et dans la perception de beaucoup de gens, où elles perçoivent la perception des gens comme célibataire, c'est vraiment une insulte, quoi.
Et moi, si j'avais un mot pour définir un célibat, en fait, c'est vachement dur, je m'en rends compte, plus que pour d'autres sujets, étonnamment. Parce que à chaque mot que je vais dire, j'ai envie de répondre un peu comme ce que t'as fait, Charlotte. Ouais, mais en couple. Pour moi, si je devais vraiment rester dans un mot... célibat, moi je mettrais vraiment le mot liberté, c'est vraiment ce que j'ai éprouvé, mais parce que pendant longtemps j'ai condamné le couple à être une prison, et donc du coup par inversion, enfin par remplissage inversé, par yin et yang quoi, forcément en filigrane célibat était liberté, ce qui était faux, et j'ai eu vraiment beaucoup d'errance en fait en célibat, et ça a eu des hauts et des bas, et j'ai me suis beaucoup forcé à voir le célibat d'une seule manière, juste parce que je voulais compléter ma vision incomplète du couple.
J'ai tilté, je me dis, c'est quoi l'étymologie du mot célibat?
Célibutum.
Déclinaison célibat.
Non, mais je me dis, ce serait intéressant, en fait, de comprendre l'origine du mot pour avoir peut-être une signification auquel tu penses pas. Tu sais, des fois, je trouve que t'as un peu des surprises quand tu creuses...
Il paraîtrait que célibataire, ça vient du mot célibatus.
Ah oui, c'était vraiment
c'était
ça.
C'était pas loin, en fait.
C'était très loin. Qui voudrait dire soit borgne. Donc c'est quand même rigolo que la définition du célibat, ça soit un handicap de la normalité, quoi, à deux. Ou alors, il y aurait d'autres mots qui voudraient dire, en gros, ça voudrait dire quelqu'un aimant être seul.
Ah, c'est bien ça.
Donc, du coup, t'as les deux. On retrouve exactement ce qu'on a dit pendant le podcast.
Ouais,
soit t'as l'impression d'être l'œil crevé du couple, soit t'as l'impression d'être bien, d'être seul, d'être complet. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et puis, chers applaudisseurs, je vais en fourche langue. Chers applaudisseurs, je vais pas y arriver, c'est incroyable. Chers applaudisseurs, je vous fais des bisous et je vous applaudis avec le cœur. Oh là là, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire et une note sur Apple Podcast et aussi sur Spotify où maintenant c'est possible. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et ça soutient énormément le projet. Puisque, je le rappelle, j'ai zéro budget pub, donc c'est vous les ambassadeurs de Mise à Mal. Et maintenant, je vous laisse avec les petits moments off de cet épisode. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter Mal à l'aise, le lien est dans ma description Instagram.
Je fais des... Auto-promo, allez.
Pour te dire, c'est ton podcast.
C'est mon podcast,
ça me semble
juste.
Fais ce que tu veux. Tu veux parler d'autres sujets
Je suis très beau. Gamin.
J'avoue, quand j'en ai les mets dedans, des fois dans la boîte, genre je regarde vite fait, mais.
En fait, je les colle dans un cahier.
Ah oui.
Même depuis le début, et du coup, quand je fais ma session de collage, genre j'aime bien refeuilleter.
Ah oui, d'accord, t'es le niveau au-dessus. Moi, j'ai une boîte, t'avais un cahier.
Moi, je me les cloue sur le corps. C'est pas dans comment le truc avec Daniel Auteuil, là, le parfum de Manon, non? Le Manon des eaux, Manon des bois.
Sources.
Manon des sources.
Le mec est vraiment. C'est la version porno, peut-être, je sais pas.
Voilà. Manon perd les os.
il fait quoi?
Il se coule le ruban
dans les tétons.
Peut-être dans les tétons. Moi, je me rappelais du pec.
Je me souviens que vraiment avoir ressenti la douleur. Mais ça, c'est un truc d'hypersensible, de ressentir la douleur quand il l'a fait.
C'est un truc d'hypersensible?
Bah, de ressentir plus la douleur des autres, ouais. La surempathie, c'est un truc d'hypersensible.
Non, le twerk, c'est sobre.
C'est sobre.
Donc, le twerk et l'alcool, ça me permet de passer à un niveau supérieur en twerk. J'aurais peur de faire sob parce que j'aurais peur de me blesser.
De péter les hanches.
Parce qu'en fait, je fais du twerk où je mets la tête en bas et je mets mes pieds contre le mur. Et du coup, l'alcool me permet de retirer tout sens de danger. Ce qui rend la chose encore plus dangereuse.
Oui, légèrement. Oui. C'est comme ça qu'arrivent très souvent les accidents.
C'est ça. Je t'ai perdu, attends.
Mais c'est dire qu'en fait, la personne qui avec qui tu vas être en couple, c'est pas un ingrédient, c'est un ingrédient qui va apporter un piment dans le dessert, mais c'est pas l'ingrédient principal. Tu vois ce que je veux dire?
Pimento, Alba.
Non, mais je suis perdue, moi, dans la farine.
Mais la farine,
parce que
c'est
pour faire un gâteau, tu peux pas faire
de
gâteau sans farine.
Tu peux pas l'enlever après.
Tu cuisines, si c'est sans gluten.
Alba, est-ce que c'est le moment de dire que tu es newsletter sur la food? C'est vraiment pas une blague en plus.
Allez!
J'aurais dû commencer par ça, en fait.
Non, c'est mieux quand c'est naturel, c'est moi qui te l'a fait. Tu vois, tu me l'as même pas demandé en plus.
Je dis rien, je te laisse parler.
Voilà, j'ai fini. Bah non, mais fais.
Du coup, j'ai une newsletter qui s'appelle Lost in Food, en référence à Lost in Translation, mon film préféré, mais ça c'est encore un autre sujet qui fait référence aux billets de cinéma que je collectionne.
Sur ton corps, sur tes tétés.
Non.
C'était toi. Enfin, je remets l'église au milieu du village.
J'ai cette newsletter Lost in Food, c'est un mail par mois avec des recommandations d'adresses sur Paris la plupart du temps. Et du coup, pour y avoir accès, c'est sur mon compte Instagram alba-galatea. On mettra mon compte dans les commentaires.
C'est donc son podcast, clairement.
Je vais trop loin, c'est quoi la limite
pas, mais en même temps...
craque pas, mais...
mais trop bien. Alors, on va dire que la métaphore du golf était mieux que ma métaphore.
Ah, tu vois, on sait pas où elle va.
Je m'en souviens même plus de la conclusion de la métaphore du golf.
C'est toujours trop. Fini dans le même trou.
C'est pour ça que je m'en souviens plus.
Moi, j'ai retenu plus, ça finit dans le trou, quoi.
Ça finit toujours dans le trou, elle, maintenant.
Mais sa métaphore est géniale pour plein de trucs, je me dis, mais...
Ah ouais, c'est inventé sur le moment.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.